Records. Voilà. Il est 14h sur le 666, voici Magic Buck.
Would you like to dance? Hey you, would you like to dance? his days. Anytime you want, baby, your time is my time.
Enregistrement live chez French Blue de Monsieur Magic Buck. Donc ici, Magic Buck, extrait de l'album This Magic Will Buck You Up. Magic Buck au téléphone. Salut Buck, tu vas bien?
Salut Marco.
Eh bien écoute, en direct de Toulon, c'est ça?
Oui, je suis chez moi, à la maison.
Chez toi, à la maison. Et puis toujours sur la route, Buck, un petit peu. Enfin, sur la route, et puis aussi, de temps en temps, à la maison. Moi, je vais passer des photos, un peu à droite, à gauche. Cet album a été enregistré à la 7e vague, c'est ça?
Oui, le Café Théâtre 7e vague, à La Seyne-sur-Mer.
Un endroit que tu affectionnes particulièrement?
Oui, énormément. C'est un endroit où je joue à peu près une à deux fois par an. Mmh. Et j'apprécie vraiment cet endroit pour son intimité. Ça contient à peine plus qu'une cinquantaine de personnes, donc c'est parfait pour un concert de blues acoustique.
Pour un one-man show acoustique, avec ton tabourin, avec l'harmonica, la slide, et puis les bottes, tout y est. Enfin, je trouve la pochette, déjà, c'est pas très radiophonique, encore une fois, ce que je vais dire. La pochette est très réussie. Il y a des photos de scènes qui sont prises en ton absence, puis par contre, deux photos absolument complémentaires, l'une comme l'autre. L'une sur la pochette recto où tu te déchires.
Voilà.
Hein? Et puis l'autre, où tu es beaucoup plus attentif, on te voit bien avec ton porte harmonica. Là, voilà, tu mènes ta scène du début à la fin. Magic Buck, c'est une histoire de scène quand même. On attendait un album live à un moment donné.
Oui, moi le premier.
Ouais.
Moi le premier, parce que l'énergie de la scène, c'est vraiment quelque chose qui est impossible de reproduire ailleurs que sur scène.
Oui.
Donc sur les albums studio, on peaufine, on crée, on donne la vie aux morceaux, et puis ensuite, ils prennent leur envol sur scène, et c'est bien d'arriver à capturer ça après.
Alors, pourquoi ce titre Magic Buck, tu as écrit en tout petit « This will you up, this magic will buck you up », c'était un petit gimmick, une petite idée comme ça qui t'a pris, ou est-ce que tu avais vraiment envie que cet album s'appelle, enfin ton prochain album s'appelle comme ça?
D'où vient l'idée? C'est un titre, pour tout te dire, c'est un titre que j'ai en tête depuis après le premier album.
J'ai l'impression que c'était, ouais, voilà, c'était un peu prémédité cette histoire. Je sais qu'il y a toujours un certain calcul dans ce que tu fais. Tu laisses des choses au hasard, mais pas tout quand même.
C'est pas un calcul. Non, c'est juste que c'était le moment de le faire parce que ça une fois de plus, ça veut dire quelque chose sur mon parcours. Je pouvais pas donner ce titre à un album studio, surtout pas. Aux deux qui ont précédé, parce qu'ils arrivaient juste après une période qui avait été quand même assez particulière.
Une période sombre de ta vie.
Un peu, voilà. Mmh. Donc ces albums-là, ils étaient là pour marquer une renaissance. J'ai vraiment vécu ça comme ça.
Tu as employé le mot renaissance, moi j'allais dire régénérescence.
Ouais, c'est pas mal aussi.
Le précédent s'appelait Love and Light. Ouais. Est-ce que celui-là aussi aurait pu s'appeler Love and Light?
Non, celui-là, je voulais vraiment qu'il soit un petit peu comme un coup de pied aux fesses, mais dans le bon sens du terme.
Mmh, bootstamper.
C'est-à-dire que, en fait, c'est une expression, this magic will buck you up, qu'on peut traduire par cette magie va te filer à la pêche, va te donner de l'énergie. Et voilà, c'est pour ça que vraiment, je pensais que ça ne pouvait concerner qu'un album live.
Est-ce que faire des albums, c'est un acte de guérison pour toi?
Les deux précédents, oui, indéniablement. Celui-là aussi, parce que c'est un petit peu l'aboutissement de les trois et de l'histoire qu'ils racontent. Et ça, c'est un petit peu une manière, non pas de tourner une page, mais d'en ouvrir une nouvelle.
Il y avait un tout premier album précédent ces trois-là dont tu parles. Je crois que c'était en 1998, c'est ça, Bootstamping the Blues.
Oui. Hein,
et puis ensuite c'est cette période pendant laquelle tu t'es éloigné de la scène et des studios. Et puis ensuite voilà, les cheveux ont repoussé et puis ils continuent de pousser. J'ai l'impression là sur les photos récentes. Dis donc, hein, c'est de l'entretien ça. Buck, ton rapport avec, pas forcément avec la musique en général, mais ton rapport avec le blues et plus particulièrement la scène blues française. Quel est ce rapport que tu entretiens, sachant que tu joues seul, mais tu n'as pas toujours fait ça?
Oui, j'ai joué en groupe évidemment auparavant.
On pense au projet que tu avais avec Mike Green notamment.
Ah oui, ça
plus récent,
ça,
plus récemment.
C'est une collaboration récente, oui. Ouais. Parce que je l'avais invité sur l'album Love and Light, après qu'on se soit rencontré sur un festival, et puis on a fait quelques scènes en duo, on a même monté un trio ensemble,
oui,
qui s'appelait Medicine Man, mais qui était un petit peu en sommeil, parce que Mike est très demandé, il est sans arrêt sur la route.
C'est la question que j'allais te poser, donc ça existe toujours virtuellement, si on vous appelle, vous êtes là, mais bon.
Oui, exactement.
Il n'y a pas trop d'actu pour l'instant. Tu as un passé de musicien de groupe, il faut le rappeler quand même. Ça fait quoi, je veux dire, maintenant de jouer tout seul, tu le fais depuis plusieurs années maintenant, ça fait quoi de se dire, bah tiens, avant je jouais en électrique avec d'autres musiciens derrière, un petit peu à la manière d'un Philippe Ménard qu'on a écouté tout à l'heure dans l'émission, c'est une autre façon de voir la musique, ton rapport vraiment avec la musique dans ce cas-là, quand tu es tout seul?
Écoute, franchement, je n'ai jamais eu une telle liberté.
Oui.
Et voilà. Je peux résumer ça comme ça. L'envers du décor, c'est la solitude sur la route.
Bien sûr.
C'est ce que je raconte aussi dans un morceau qui s'appelle My Blue Ford and Me.
Oui, bah, qu'on aurait pu passer d'ailleurs, qu'on a failli passer, puis qu'on va peut-être passer quand même. Ah, ton Blue Ford, je me souviens d'une photo avec un t-shirt Sweet Home Chicago et une Blue Ford derrière. Tu te souviens de ça, Mac?
Ça, c'était avant que je vienne.
Tu te souviens également de quand tu es venu, c'était au Subok il y a quelques temps,
oui.
Il y avait un garçon qui s'appelait Laurent Picot, tu te souviens toujours de ce garçon-là?
Oui. Ouais.
Voilà, lui aussi il a une actu, Laurent Picot, je ne sais pas s'il écoute cette émission, mais en tout cas voilà, il vient de sortir également un disque. Et est-ce que tu te rends toujours sur Paris régulièrement par plaisir et puis également pour t'y produire?
Oui, toujours, un peu moins qu'à l'époque où on s'est connus.
Ouais.
Mais toujours, j'essaie toujours de faire ça le plus régulièrement possible.
Buck, je te propose qu'on écoute un autre extrait de ce double album live. On va revenir sur le CD 2 cette fois-ci. Le titre, c'est Stop the Talking, Start the Doing. C'est tout un programme finalement. C'est pas un petit peu la vie de tout un chacun. On parle, finalement, on reste assis, on fait rien.
Voilà, si, bien sûr. Et ça nous concerne tous. Et je ne m'exclus pas des gens.
Oui.
Que je critique dans le morceau, évidemment.
Oui, de toute façon, s'il y avait que les gens parfaits qui pouvaient critiquer, je pense que toute critique serait interdite, non? Finalement.
Allô?
Oui, ouais, je disais, je pense que si seuls les gens parfaits pouvaient se permettre de critiquer, il n'y aurait aucune critique possible.
Évidemment.
Stop the talking, start the doing, et puis on se retrouve juste après, Buck.
Ok.
Well, I heard you talking all night. Well, I saw you shining all around. You'd better stop the talking. You'd better stop the talking. You'd better stop the talking, man, and start the doing. One day listen, you love to be me. One day love, you'd better stop the talking. You'd better stop the talking. You'd better stop the talking. Man, start the doing. To see the noise you break as you got nothing, nothing to say. You'd better stop the talking. You'd better stop the talking. You'd better stop the talking. Man, start the doing. That much, quite all love. What's the best? You'd better stop the talking. You'd better stop the talking. You'd better stop the talking. Man, start the doing. Better stop the talking. You'd better stop the talking. You'd better stop the talking. Man, start to do it. You say you're gonna do this, gonna do that. You're still talking, but you still end on nothing. You'd better stop the talking. You'd better stop the talking. You'd better stop the talking. Man, start the doing.
Baker live, this magic will buck you up. Buck, est-ce que on parlait de liberté tout à l'heure dans le fait de jouer tout seul?
Ouais.
Est-ce que la liberté a forcément un prix? Tu parlais de la solitude par exemple sur la route. Est-ce que la liberté n'a pas également un autre prix eu égard à la considération, on va dire, décroissante d'une manière générale que le public offre à la musique en général?
Oui, enfin ça concerne tout le monde. Hein.
Ça c'est un ressenti, donc c'est pas forcément le tien aussi. Hein.
Oui.
C'est surtout un ressenti de ma part pour un certain nombre de raisons, mais voilà, je trouve qu'en général, les gens ne sont pas pressés d'aller dans les concerts, quoi. Enfin, de moins en moins.
C'est évident. Hein? De moins en moins, oui. Mmh. Et ni d'acheter des disques.
Ouais, complètement.
On constate tous les jours.
Et donc, est-ce que ça c'est pas un frein à certaines libertés que tu t'octroies?
Non, c'est pas un frein à la liberté, c'est juste une frustration par rapport à tout le mal qu'on se donne pour créer, pour faire de beaux disques, pour ensuite se démener, pour aller donner des concerts, voilà.
Ouais. Est-ce que les gens ont vraiment besoin ou envie de beaux disques et puis d'artistes qui brillent sur scène, ou est-ce qu'ils n'ont pas envie de quelque chose d'un peu plus formaté, un peu plus, je sais pas... c'est une question d'ordre général, ça.
Oui. Après, c'est une question de conscience. Hein.
Ouais.
Est-ce qu'ils ont encore conscience qu'ils peuvent avoir besoin, justement, de ça? La musique, ça, quand même, ça nous aide à vivre.
Oui. La musique, on parlait tout à l'heure d'actes de guérison, le fait d'être sur scène, le fait de faire des albums, le fait d'en écouter tous les jours, c'est aussi une façon de s'approprier quelque chose. Et puis
oui, une façon de se nourrir aussi.
De se nourrir, voilà, peut-être aussi. Ça, tu en es conscient au quotidien, dans tout ce que tu fais?
Oui, bien sûr.
C'est quelque chose qui est en filigrane dans ta discographie en tout cas, et puis dans certainement ta façon de, d'appréhender tes propres concerts.
Ah oui, conscient de la moindre bouffée d'air que j'aspire.
Il y a des gens comme ça dans la vie qu'on sent beaucoup plus concerné par le fait de vivre justement, et puis ça on en avait parlé lors de la dernière interview, on va pas épiloguer non plus, mais on sent quand même que Magic Box c'est pas un artiste comme les autres, rien que pour ça quoi. C'est ce que j'avais envie de te dire. Cet album, This Magic Will Buck You Up, on peut se le procurer, bien sûr, en allant te voir sur scène. Est-ce que tu as mis au point un circuit de distribution pour permettre au plus grand nombre de l'avoir, de l'acquérir ?
De la vraie distribution, oui. Non, mais il y a une bonne boutique en ligne sur mon site.
D'accord.
Avec un vrai panier, on peut faire ses courses. On peut acheter l'album, les anciens... le t-shirt.
Et on peut acheter avec en paiement sécurisé, c'est ça que tu veux.
Voilà, ouais, complètement. Ouais.
On peut donner l'adresse à ce moment-là du site.
www.magicbuck.com.
Tout simplement. MAGICBUCK. Donc Magic Buck qui continue à écumer les scènes. On parlait de ce concert qui avait été donné en décembre dernier. Hein, c'est ça. C'est en décembre que tu avais.
Oui. C'était enregistré sur deux soirs.
Et donc il y a également un invité, je vois, qui s'appelle Tony Zombie, dont j'avais déjà entendu parler par ailleurs, qui joue du banjo sur un seul titre. C'est pas tout à fait un album solo, alors dis donc, c'est une toute petite entorse.
Ah bah il est mon invité, en fait il avait fait partie des trois invités sur l'album précédent, sur Love and Light. Et bah depuis ce morceau qui est un instrumental sur lequel je fais danser et chanter le public. À chaque fois qu'il est dans le coin et qu'il peut être là, bah, il n'hésite pas, il me rejoint.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, la promo de cet album et puis les prochains concerts? Où est-ce qu'on peut te voir déjà? Les prochains lives, c'est quand?
Alors, ce sera en juillet, pas avant. Et en juillet, je vais faire une tournée qui va. En fait, je fais la côte ouest, voilà, je vais me faire la côte ouest à moi.
D'accord.
Je vais démarrer du Pays Basque. Et je vais remonter toute la côte jusqu'en Bretagne.
Et pourquoi pas jusqu'en Normandie?
Parce que j'ai lancé des lignes, mais que le poisson n'a pas mordu.
D'accord. Et donc, ce sera dans quel type d'endroit finalement? Des bars, des MJC, des salles?
Un peu de tout. Il y a un festival de blues, ouais. Je suis assez content de pouvoir l'annoncer, parce que j'en fais pas souvent. C'est le Dax Motors and Blues Festival, ce sera le samedi 11 juillet.
Samedi 11 juillet, on va noter la date.
Ouais. Je joue à 13h.
Ah oui, il faut se lever tôt pour aller voir Magic Buck, effectivement. Voilà. Donc samedi 11 juillet à 13h, ce sera, j'imagine, en ouverture de ce festival annuel.
Je crois que ça commence à jouer la veille déjà.
Ouais, d'accord.
Mais en tout cas, oui, je pense que je serai le premier à jouer le samedi.
Et puis ensuite, on peut donner les différents endroits où tu vas te produire. Il y a des gens qui vont en vacances et puis il y a des gens qui y habitent. Ouais, est-ce que tu vas aller du côté de chez Jalbi, du côté de
Charente-Maritime? À La Rochelle, ouais. Ouais. Il y a un lieu à La Rochelle, je ne peux pas encore le donner parce que ce n'est pas complètement confirmé. Ouais. La tournée n'est pas terminée de boucler en fait. Donc ça, je ne peux pas trop l'annoncer, mais j'espère. Enfin, en tout cas, toutes les dates sont au fur et à mesure sur le site.
Bien sûr, bien sûr. Écoute...
Je vais pas mal en Bretagne, la deuxième quinzaine sera exclusivement en Bretagne.
Je te souhaite bonne chance en tout cas pour la promo de ce double live, This Magic Will Buck You Up, et puis bonne chance bien sûr pour tous les prochains concerts. S'il y a des gens qui veulent t'inviter en Normandie, n'hésite pas à venir, hein. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire ce qu'on veut dans ce milieu, un petit peu moins en 2015 qu'autrefois, je trouve.
Ouais. Bah, moi je serai en Bretagne jusqu'à début août en fait.
D'accord.
Donc, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés en Normandie pour qui m'appellent, qui me contactent.
Tout à fait. On peut donner ton contact direct via l'internet. Buck, merci pour tout. Et puis on va écouter un troisième extrait avec All a Man Can Do, tout ce qu'un homme peut faire. C'est pas mal pour conclure cette interview finalement. À très bientôt, Buck.
À bientôt. Merci Marco.
Merci. Ciao.
Don't leave me, don't you put me so down. Please don't leave me, Don't you put me so down. You're my woman, you cannot quit your man. Please just look at what I've done for you. Please just look at what I've done for you. All a man can do, I've been doing for you. I've been cheating and lying and running and fooling. I've been chancing and losing and fighting and winning. I've been doing for you all a man can do. All a man can do, I've been doing for you. Don't need to hurt your man that bad. You don't need to hurt your man that bad. I don't need to fight also for you. How can you see all the way to be? Of the way to be. Hear a man's voice, well you don't have no choice. You'll be warming and swaying and wailing and feeling. You'll be wounding and crying and searching and seeing. I've been doing for you all a man can do. Thank you.
C'est du live, ça s'appelle This Magic Will Buck You Up.
Merci.
C'est nous qui te remercions, Buck. À tout bientôt sur la route du blues.
Little girl, her mother give something to take into this world. Oh, she's got it. She's got it right from the start. She's got a real soft voice with a mellow tone. Whatever she's got, I can't leave alone. Oh, she's got it.
Monsieur Mud Morganfield au chant, Igor Prado à la guitare, Yuri Prado à la batterie, Ivan Marcio à l'harmonica, Rodrigo Montaglioni à la basse, à l'acoustique basse, et puis Donny Nicito au piano. C'était She's Got It, extrait de Way Down South du Igor Prado Band and the Delta Groove All-Star, disque du mois de juin pour Sweet Home Chicago. On poursuit avec un Avray qu'on a interviewé il y a quoi, il y a 4 semaines de ça. Monsieur Little Bob, l'insatiable, l'indéboulonnable et l'inoxydable Little Bob, l'album des Blues Bastards s'appelle Howling. En voici un extrait, je ne sais plus si j'en avais passé celui-là. En tout cas, on va y revenir avec plaisir. My Heart Keeps Beating. Thank you.
I hold these years inside me, all this time we spent together. The summer sun is leaving me, but my heart keeps beating. You're my woman, my emotions, and my reason to believe. And if the wind blows pains, my heart keeps beating. Baby, you are so sensitive. Sometimes I don't understand. Your love opened my mind and bring tears in your eyes. Little bird, let down your sorrow. I've not lost all my dreams. You're my today and my tomorrows. With your tender look, you shine for me. And I feel your delicate strength. It grows up my desire. Your grace is a dream and a prayer. Sometimes my heart keeps beating. Baby, you are so sensitive. Can you help me to understand? Your love opened my mind and my heart keeps beating. Baby, you are so sensitive. Can you help me to understand? Your love opened my mind and my heart keeps beating. My heart keeps beating.
On va rester en Haute-Normandie, content qu'on peut encore dire Haute et Basse-Normandie d'ailleurs, ça va bientôt s'arrêter cette connerie. Little Bob Bluesbusters Howling. Voici maintenant des Rouennais, le groupe New Lineup, vous l'attendiez depuis longtemps, cet album qui s'appelle Helping Hand. Pascal Delahaye, Pascal Hernandez, Jérôme Lemel et Pascal Rigaud. Voilà, hier soir au Sumo, il y avait un groupe avec deux Pascal. Là ce soir, il y en a trois. Ce midi, il y en a trois parce que Jérôme, voilà, c'est l'intrus. Il est chanteur harmoniciste, mais il y a plein d'invités dans ce disque. Il y a Bertrand Couloum qu'on vient d'entendre à la contrebasse, qui joue également de la guitare sur un autre titre. Il y a Dom Delahaye au sax, il y a Pascal Fouquet à la guitare, Jennifer Milligan au cœur, Christophe Pellissier à la guitare, Nico Duportal à la guitare, on va l'entendre ici, et puis votre serviteur sur un autre titre. Voilà, on poursuit avec cet extrait de l'album de New Lineup qui s'appelle je viens de vous le dire, Helping Hand. Vous écoutez la radio des fois. Voici My Woman is Another Man. Et oui, tout arrive.
My sweet little baby is another man's. My dear little baby is another one. Pretty honey sugar, don't let me go without a smile. My sweet little baby is another man's. Don't leave me now in trouble. Don't leave me now without a hope. My sweet little baby, sweet little baby, my sweet little woman is another man's. My sweet little baby is another way. My dear little baby is another day. Pretty honey candy, don't let me go without direction. Sweet little baby is another man's. Don't leave me now in trouble. Don't leave me now without a hope. another man's.
Le groupe New Lineup, on reviendra bien sûr sur cet album qui s'appelle Helping Hand, ici avec un invité, monsieur Nico Duportal, qu'on retrouvera plus tard dans vos dédicaces d'ailleurs. Il y a beaucoup de dédicaces pour cette émission, c'est normal, ça faisait 4 semaines qu'on n'avait pas eu de Sweet Home Chicago en direct. On continue avec Mr. B.B. King et juste après ce morceau-là, interview de Laurent Deloire.
I just leave her crying when the blues come over me. Up on the mountain, I'm drowning in the sea. All the clocks say midnight when the blues come over me. The blues come over me. I pack it up and go. The blues come over me. I catch a wind and blow, and some will take the wine, and some will take the night.
son magique de la guitare de B.B. King qui résonne à travers l'extrait de cet album qui s'appelle There Is Always One More Time. Personnellement, The Blues Come Over Me, ça constitue l'un de ses plus beaux titres. Un enregistrement de 1991, B.B. King, que vous savez, qui nous a quitté le 14 mai dernier. Au téléphone, en direct de l'Aveyron, nous avons Laurent Deloire sur le 666. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Laurent Deloire, qui n'est pas interviewé ici en tant que musicien, mais en tant que dessinateur, caricaturiste et grand amateur de blues, on va dire.
Voilà, exactement, triple casquette, mais j'avoue que je suis plus caricaturiste que musicien. Mais cela étant, pour moi, le blues a toujours fait partie des musiques qui m'accompagnent quand je dessine, en fait.
Et ça m'avait interpellé il y a 4 semaines de ça. Je te connaissais virtuellement depuis un bon moment. J'avais l'occasion d'apprécier tes dessins dans d'autres sujets que la musique aussi, bien sûr. Mais ça m'avait interpellé, cette fameuse caricature de B.B. King qu'on a remis sur Facebook et qui a été multi-likée, on va dire. D'ailleurs, là où tu es, dans une convention, c'est ça, dans une...
On est dans un festival de dessin et de caricature à Bozoul. Donc Bozoul, en fait, c'est dans l'Aveyron.
Ouais.
C'est le pays de Raoul Cabrol, en fait, qui est un caricaturiste qui s'est fait connaître, entre autres, par ses caricatures qu'il avait faites d'Hitler dans les années 30, qui lui ont valu une condamnation à la mort du Troisième Reich, en fait.
Ouais.
Donc il a été obligé de se cacher, etc. Donc on est à côté de sa ville de naissance. Et donc il y a un festival de la caricature, entre autres, pour lui rendre hommage, puisqu'il y a une exposition. Et puis aussi, pour dessiner les gens qui sont présents, faire des expositions. J'ai d'ailleurs le B.B. King en reproduction qui m'a suivi.
Cette fameuse caricature de B.B. King, qui n'est pas la seule de B.B. King que tu aies faite. D'ailleurs, il y en a une autre, sur le blog.
Il y a eu effectivement, depuis longtemps, je caricature, j'aime bien sur e-concert. Prendre des concerts de B.B. King, même si malheureusement il n'y en a pas des masses.
Ouais.
Et puis faire des arrêts sur image et puis crebarder à partir de mes télé des expressions. Forcément les bluesmen sont quand même des gens très expressifs et qui vivent leur musique, comme beaucoup de musiciens d'ailleurs. Et c'est vrai que pour un caricaturiste c'est génial parce qu'on peut choper vraiment le feeling du dessin, quand le feeling du dessin et le feeling du blues arrivent à se marier, c'est vrai que ça peut faire des cocktails détonnants. Donc voilà, c'est un peu ce que je cherche, en fait.
Alors B.B. King, on en parlait, il y a des gueules quand même, hein, dans le blues, tu viens de le dire. C'est ça qu'on cherche quand on est dessinateur caricaturiste. On cherche bien sûr à grossir le trait parfois. Et puis il y a d'autres fois, c'est tellement facile d'ajouter quelque chose, de juste en mettre un tout petit peu plus pour que vraiment grossir le trait, j'allais dire. B.B. King, c'est un bon sujet.
C'est un très 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 bon sujet, déjà par affinité, forcément, parce que je pense que les affinités quand même sont à la base de la réussite d'un dessin. Les affinités ou éventuellement le dédain, parce que c'est vrai que quand on n'aime pas non plus, quand on a quelqu'un dans le nez, on peut aussi très bien le dessiner, mais peut-être pas avec autant de je vais pas dire condescendance, parce que c'est un mot qui est sujet à interprétation, mais en tout cas j'ai dessiné B.B. King avec amour et passion, et je dessinais par exemple Sarkozy un peu différemment, voilà, pour caricaturer. Mais c'est vrai que moi je l'ai vu en concert pas mal de fois, B.B. King, parce que j'ai eu la chance de faire le festival de jazz à Vienne dans l'hiver en étant accrédité, et puis de pouvoir faire les afters, dessiner les trucs, faire des mouvements de musiciens, plein de choses comme ça.
D'accord.
Et donc c'est vrai que moi, chez les bluesmen, c'est vrai qu'il y a un terreau qui est fabuleux, quoi.
Il y a des bons clients. Alors, comment est-ce qu'on fait, est-ce que c'est du live, c'est-à-dire qu'on est devant avec son petit pupitre devant le concert, devant l'artiste en train de le crobarder, ou est-ce qu'on travaille sur photographie, ou est-ce que les deux sont possibles finalement?
Les deux sont possibles. Dans l'absolu, quand on arrive à allier les deux, c'est fabuleux.
Ouais.
Parce qu'effectivement, on va avoir des choses en live, donc forcément non préparées, sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Et puis la photo va nous permettre de cadrer, d'apporter quelques précisions qu'on ne voit pas forcément de loin. Bon, dans les grands festivals de blues, de jazz, l'avantage c'est qu'on a souvent des gros écrans avec quand même des gros plans qui sont quand même assez sujets à permettre de bosser. Moi, j'ai bossé avec un ami qui s'appelle Jean Duverdier, qui officie aussi parfois sur le festival de Bayonne de jazz.
Mm-hmm.
Et c'est vrai qu'on s'est éclaté dans le fait de dessiner les musiciens devant, derrière. enfin, l'ambiance générale, hein, pas forcément du détail de d'expression, mais c'est vrai que c'est... Enfin, quand, encore une fois, quand on arrive à allier la passion de deux passions, en l'occurrence, hein, le dessin et le blues, voilà, ouais. c'est magnifique, quoi.
Quels sont les blues suprêmes? Oui, plaisir suprême de d'allier deux plaisirs effectivement en même temps. Quels sont les artistes en dehors de B.B. King que tu as aimé caricaturer? Je pense il y a eu John Lee Hooker aussi que tu t'es attaqué à d'autres bluesmen. Il y en a particulièrement pour qui tu as une tendresse.
Ouais, ben j'ai Buddy Guy, j'ai Luther Allison, j'ai Screaming Jay Hawkins. Enfin, je veux dire. Des anciens bluesman aussi, c'est vrai que j'ai une bonne petite panoplie d'esquisses que je garde comme ça chez moi, puis que j'exposerai à l'occasion d'un festival éventuellement. Mm-hmm. Mais c'est vrai, j'avoue que j'ai ce désir en moi comme ça d'exposer, voilà, de faire une exposition de dessinateurs de musiciens de blues très prochainement. J'aimerais beaucoup, ouais.
Ah ouais. Ah oui,
donc ça c'est un truc que je travaille, on va dire, en sous-marin.
Ça c'est peut-être l'occasion pour toi d'exposer dans des festivals de blues. Je sais que ça se fait beaucoup, pas forcément en tant que caricaturiste, mais en tant que photographe par exemple. Il y a beaucoup de photographes qui compilent leurs travaux sur plusieurs années et qui les proposent à différents festivals. Bah, ça serait vraiment intéressant de faire ça.
Les touches et expériences que j'ai eues par rapport à des fans de blues, effectivement, le retour a toujours été bon. Car j'ai toujours ressenti qu'il y avait une demande et que... Parce que nous, quand on dessine en direct comme ça, de manière assez spontanée, comme on le fait ce week-end là, dans l'Aveyron, les musiciens retrouvent un petit peu l'espèce de feeling, un peu le côté un petit peu intuitif qu'on peut avoir parfois quand on fait un solo en musique et puis quand on fait son petit dessin, son trip en dessin aussi.
Oui, oui, très bonne très bonne.
Les sensations sont assez proches, en fait, je trouve.
Tout à fait. Est-ce que c'est important pour le public, pour les gens qui découvrent tes œuvres, qu'ils reconnaissent immédiatement le modèle?
Je veux dire fondamental, encore utile fallu qu'ils connaissent l'original.
Oui,
donc par exemple dans le cadre de B.B. King, beaucoup de gens le connaissent aujourd'hui et ne le connaissaient pas avant. Donc oui, pour je pense que c'est faut quand même être un petit peu averti par rapport à ces sujets-là pour arriver à identifier les modèles. C'est sûr que c'est plus facile de faire des people, malheureusement. Là, spontanément, tout le monde va les connaître, mais il y a rien dans les people en termes d'expression, il n'y a rien en termes de pérennité sur un dessin, et puis voilà, c'est creux, quoi. C'est comme...
Tu te présentes comme caricaturiste de presse, donc tu as collaboré avec Libération, avec la dernière version de l'Almanach Vermont, hein, 2015, puis tu as reçu plusieurs prix pour ça. Est-ce que du fait de ta notoriété maintenant, est-ce qu'on te commande des choses? Est-ce qu'on te demande particulièrement des modèles?
Ouais, en fait, je réalise vraiment des trucs très différents. Des caricatures, je fais pas mal d'événementiels sur des lieux comme l'Opéra de Paris en caricature, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est très 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 varié, en fait, les demandes. C'est parfois surprenant, mais c'est vrai que c'est un peu comme les musiciens qui ont des domaines dans lesquels ils sont à l'aise, heureux de dessiner, et puis ils sont obligés parfois alimentairement aussi de faire des choses moins agréables.
Voilà, encore.
Donc,
effectivement.
Donc on se retrouve tous un petit peu à être obligés de faire des concessions. Et quand ça reste dans notre domaine de prédilection, je dirais les concessions sont moins difficiles, en fait.
Y a une question qui me brûle les lèvres. On est 5 mois après les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que tu peux nous livrer en quelques secondes ta réaction à l'époque?
J'ai été sonné. En fait, c'était un truc qui a été difficile à comprendre, déjà, à la base. À contextualiser, à admettre, en fait, aussi. Et puis bon, voilà, quoi. Je trouve que ça, sur le fond, ça n'a pas de sens, en fait. Moi, je connaissais très bien Timus, je connaissais forcément d'autres dessinateurs.
Ouais.
Mais physiquement, je veux dire, c'est tellement facile de s'en prendre à des dessinateurs qui sont vulnérables et surtout qui sont pas du tout aguerris au fait de se protéger sur une attaque éventuelle.
Et qui font des petits Mickey, hein, comme... Ouais.
Ils avaient toujours ces menaces de mort au-dessus d'eux, mais je pense qu'à la base, ils n'y croyaient pas réellement, quoi, parce que c'est tellement démentiel quand on fait du dessin de penser qu'on va nous tuer parce qu'on fait du dessin, que voilà, il faut vraiment penser que les gens sont... à la base sont prédisposés à être psychopathes, quoi.
Quelques semaines après les attentats du 7 janvier, il y a eu, c'était programmé au mémorial de Caen, une rencontre, un week-end autour de la caricature. Elle a été purement et simplement, non pas annulée, mais reportée à l'automne prochain. Est-ce que tu comprends ce genre de choses ?
Bah, en fait, je comprends pas forcément le fait que c'est qu'on recule par rapport à aux menaces. Je comprends par contre que maintenant, pour organiser un événement public, par rapport à tout ce qui s'est passé, les organisateurs sont soumis à de telles règles de sécurité, on leur demande tellement de frais annexes qui doivent être pris en charge en plus par eux, mm-hmm. qu'ils préfèrent renoncer. C'est-à-dire que finalement le but est atteint, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à museler les dessinateurs, à faire disparaître il y a beaucoup de rencontres aussi qui devaient débattre des attentats de Charlie Hebdo qui ont été annulés parce qu'il y avait des menaces, parce que forcément il y a toujours un idiot quelque part qui va faire une alerte à la bombe ou un truc comme ça. Donc en fait je trouve que le renoncement quelque part donne raison à ceux qui sont débiles, quoi. Donc moi je pense qu'il faut maintenir les choses et puis que les organisateurs doivent avoir le soutien des pouvoirs publics pour prendre en charge de leur côté tout ce qui est d'un point de vue sécurité. C'est notre liberté qui est en jeu par rapport à...
Je viens d'entendre un modèle derrière qui proteste parce que sa caricature est ratée. C'est le chien là, qui vient d'hurler, on est d'accord.
Il nous arrive de dessiner des animaux effectivement, mais il n'est pas encore venu, je pense que... Non, mais ça nous arrive, quoi. Ouais, c'est un peu étrange, le métier de caricaturiste. Hein.
Laurent Deloire, en plein festival, ici dans l'Aveyron, il y a beaucoup de tes collègues qui sont autour de toi. Il y a du public, ça va, les gens apprécient,
oui,
ça
oui,
se passe
en fait,
comment?
Bah, je ne connaissais pas trop l'Aveyron, hein. J'y étais jamais allé, donc c'est, faut connaître, c'est un peu loin de tout.
Il faut revenir avec un couteau de la gueule, comme ça, c'est pas...
Voilà, on n'est pas loin de la gueule, en fait. Voilà. On doit être à 20 bornes de la gueule. Donc je ne connaissais pas, les gens sont très accueillants. Bozoul, par exemple, c'est un village... qui a vraiment une particularité hallucinante, c'est qu'il y a un trou, en fait, un canyon qui s'est creusé, c'est un phénomène géologique. Ouais. Il y a des maisons qui sont tout autour, c'est vertigineux, c'est impressionnant. Donc moi je suis à côté, là, je fais pas le malin.
Les gens te demandent des caricatures d'eux-mêmes, est-ce que ça se passe comme
oui,
ça?
Oui, c'est carrément ça, ouais. C'est le principe. Ou de leurs enfants, donc on dessine en direct, on a une petite expo. Ce soir, alors il y a par exemple la fête de la musique, là où on est, parce qu'ils ont avancé d'une semaine la fête de la musique pour des raisons pratiques, et puis de faire converger le festival des dessins avec la fête de la musique. Donc ce soir, on va certainement avoir des concerts. Il y a un des organisateurs qui m'a prévu une petite guitare pour faire un petit trip de blues.
Ah bah c'est cool ça.
Donc, bon, j'avoue que le dessin ça va, mais bon là je pense qu'il m'a un peu pris au sérieux hier alors que je déconne. Donc ça va être dur à relever comme défi.